L'invité de la rédaction avec Robin Hulin.
Bonjour Jean-Carl Grolier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes député Renaissance pour la 5e circonscription de la Sarthe, membre de la commission des affaires sociales. Et vous êtes sur notre antenne pour nous parler d'un manuel que vous publiez, 25 mesures pour lutter contre le cancer. Vous avez déjà écrit plusieurs ouvrages sur les questions de santé et de mesures pour pallier à certains manques concernant la santé. Puisque vous travaillez sur ce thème et ces questions depuis plusieurs années maintenant. Alors on va parler plus en détail de cet ouvrage, de ces questions, de ces mesures et propositions que vous faites, de ce que vous proposez concrètement pour lutter plus efficacement contre le cancer en France. Mais avant ça, Jean-Carl Grolier, place à l'actualité. Aux annonces du Premier ministre Gabriel Attal ce mercredi 27 mars, il était invité aux 20h de TF1. La France est dans le rouge, peut-être un mauvais élève, comme on pourrait dire. 5,5% de déficit public pour la France sur la période 2023. Le Premier ministre l'expliquait, un ralentissement économique, moins de croissance, moins de recettes dans les caisses. Alors quelles annonces pour pallier à ces mauvais chiffres? Les plus mauvais chiffres depuis 8 ans, finalement, si on ne compte pas les deux années de crise sanitaire. Il n'est pas question d'augmenter les impôts, de taper dans la poche des Français, nous martelait le gouvernement. Alors le Premier ministre annonce une réforme de l'assurance chômage pour réduire le temps d'indemnité, probablement de 18 mois à 12 mois, après une prochaine concertation avec les partenaires sociaux. Jean-Carl Grolier, déjà, quel est votre regard sur les annonces du Premier ministre?
D'abord, c'est un constat qui fait froid dans le dos, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans une situation budgétaire que nous étions un certain nombre à dénoncer depuis déjà quelques mois, et les chiffres viennent confirmer aujourd'hui la gravité de la situation. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, nous sommes effectivement dans une situation qui est extrêmement difficile et de laquelle la conjoncture économique ne va pas nous aider à sortir, pas davantage que la conjoncture internationale. Donc il va falloir des mesures, il va falloir surtout du courage politique pour que toutes ces mesures puissent prendre forme et corps et surtout être efficace et efficace rapidement. On a un enjeu majeur devant nous, c'est celui notamment des agences de notation, de la notation de la France, parce que de cette notation dépendent les taux d'intérêt qui s'appliquent à la dette française. À ce jour et dans le budget 2024, les taux d'intérêt de la dette représentent une dépense d'à peu près 45 milliards d'euros, c'est déjà l'équivalent du budget de la défense nationale, et la Cour des comptes nous annonce que pour 2027, ces dépenses des intérêts de la dette pourraient représenter 85 à 90 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que le budget de l'éducation nationale et celui de la recherche confondus. Et on arrivera là à une sorte d'impasse budgétaire. Donc il est urgent de prendre des mesures. J'ai entendu comme vous que le Premier ministre refusait le recours à l'impôt. C'est vrai qu'il faut faire attention à maintenir un minimum de croissance économique et que l'on manipule toujours l'impôt avec beaucoup de prudence et beaucoup de précautions parce que les effets induits sur les comportements des acteurs économiques de l'impôt sont souvent assez délétères. Il va falloir aussi faire des économies et je ne vous cache pas que c'est là que j'ai quelques craintes parce que quand l'État cherche à faire des économies et quand le ministère de l'économie cherche à faire des économies dans son budget, c'est souvent des économies au rabot, à la hache ou à la serpe, et qui produisent là aussi souvent des effets délétères. J'ai noté, ça vous a sans doute pas échappé, que les deux premiers ministres à avoir été convoqués à Bercy pour faire des propositions d'économie étaient Madame Vautrin, ministre de la Santé, et Monsieur Valletoux, ministre délégué à la Santé. Et j'appréhende beaucoup le moment où on va nous annoncer que notre système de santé, qui est déjà exsangue, dont chacune et chacun de vos auditeurs savent dans leur vie quotidienne qu'il ne fonctionne déjà plus très bien, va devoir subir un coup de rabot supplémentaire qui est souvent assez injuste parce que il va frapper des dépenses un peu au hasard. Voilà, donc moi je suis interrogatif dans l'immédiat et un peu attentiste de ces mesures, de leur efficacité, de la volonté politique de les mener à terme. Il y a pourtant une vraie urgence aujourd'hui.
Ça va dans le bon sens, cette réforme de l'assurance chômage? Qu'est-ce qu'il faut lire au travers de ça? On ne tape pas dans la poche des Français, mais on tape sur les chômeurs?
Sincèrement, si ça doit se résumer à ça, je pense que ça ne produira aucun des effets que l'on en attend. Ce qui est certain, c'est que l'une des problématiques de la France aujourd'hui, c'est son taux d'emploi. nous avons l'un des taux d'emploi aux alentours de 68%, qui est parmi les plus faibles des pays de l'Union européenne. Et donc, il faut qu'on réforme sans doute et qu'on pense à réformer le marché du travail pour amener le maximum de Français sur le marché du travail. Il y a eu des réformes conduites ces dernières années, je pense notamment en matière d'apprentissage, qui ont été dans la bonne direction et qui vont permettre, quand tous ces apprentis sortiront des dispositifs de formation, y compris de formation supérieure en apprentissage, d'arriver sur le marché du travail avec un taux d'employabilité qui leur permettra de trouver du travail rapidement. Il faut qu'on réfléchisse aussi à la problématique des seniors. Quand on a 55 ans, peut-être même 60 ans, on n'est pas usé complètement et parfois on a un savoir-faire et peut-être qu'on peut d'ailleurs faire évoluer le poste des seniors dans l'entreprise pour les passer de la production à la transmission du savoir-faire qui permet là aussi de rendre employables des plus jeunes à qui on va apprendre un métier. Donc dire à un moment donné on va se concentrer sur l'employabilité, sur le niveau d'emploi dans notre pays, c'est plutôt une bonne idée. Est-ce qu'il faut le faire en ne passant que par une réforme de la durée d'indemnisation du chômage? Je ne suis pas complètement certain. En tout cas, ce que j'entends depuis que cette mesure a été annoncée, c'est que les économistes de tous bords sont plutôt extrêmement divisés, extrêmement dubitatifs sur ce type
d'annonce. Parce qu'au-delà de cette situation économique provoquée par ces périodes de crise sanitaire, si on parle de plusieurs milliards de coupes budgétaires, peut-être 20 milliards pour l'année 2025, c'est aussi tout simplement le symbole d'un échec personnel du gouvernement, d'un échec de gestion qui n'a pas su voir les signaux qu'on a pu lui alerter?
Non, je crois, enfin peut-être aussi, enfin, je pense qu'il y a depuis, vous savez, la dette, la France dépense plus qu'elle ne gagne depuis maintenant presque 50 ans. Oui. Et donc c'est imprévoyance et plutôt malheureusement un défaut bien partagé dans la classe politique devant lequel chacun doit prendre sa part de responsabilité. Et je pense qu'on a longtemps cru que simplement travailler sur le taux de croissance et améliorer la croissance suffisait à compenser toutes les dépenses que l'on pouvait faire par ailleurs. Moi, ce que je déplore, vous voyez, parce que c'est aussi l'une des missions des parlementaires que l'on oublie souvent, c'est l'évaluation des politiques publiques. Nos politiques publiques sont rarement évaluées. C'est-à-dire qu'on lance des initiatives nouvelles, parfois à grand renfort budgétaire, sans jamais aller vérifier dans le concret si les mesures annoncées et mises en œuvre produisaient exactement les résultats qu'on en attendait. Je vous citerai qu'un exemple en rapport avec la santé, qui nous ramènera peut-être aux questions de santé après, c'est le Ségur de la santé. Oui, c'était indispensable d'augmenter la rémunération des soignants. Oui, c'était indispensable de revaloriser ces fonctions qui sont essentielles au fonctionnement de notre système de santé. Mais aujourd'hui, c'est une mesure qui coûte 9 milliards d'euros. Il manquait 7 000 infirmiers à l'hôpital public avant le Ségur de la santé. Il en manque 21 000 aujourd'hui. Vous voyez, c'est donc 9 milliards d'euros qui ne produisent aucun des effets qu'on en attendait. Qui l'évalue? Qui le dit? Qui le prend en considération? Qui essaie de réfléchir avec les syndicats représentatifs des personnels soignants sur les améliorations en termes de carrière, en termes de passerelles, etc. Tout ce qui contribuerait à faire en sorte qu'un soignant ait envie, en plus de l'amélioration de son salaire, de rester à l'hôpital demain. Voilà, c'est ces sujets-là qui, à un moment donné, doivent être mis sur la table si on veut réformer ce pays en profondeur. Mais vous savez, ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans qu'on réforme ce pays à coups de tweets. Et donc, à un moment donné, il s'agit de prendre des mesures de fond. Et je pense que là, on est suffisamment loin dans l'impasse budgétaire pour qu'on n'échappe plus à ces mesures de fond.
Sur ces mesures de fond, justement, on parlait des impôts en début d'entretien. Il ne faut pas augmenter les impôts, même des classes les plus élevées. Il ne faut pas taxer les super profits. Est-ce que vous pouvez comprendre que ces annonces et ce discours puissent être mal perçus par une grande partie de l'opinion?
Moi, je pense très sincèrement, et je l'assume comme tel, il va y avoir un effort à faire, et cet effort ne sera compris et accepté que s'il est juste. Et que si à un moment donné, on demande aux Françaises et aux Français de faire un effort qui soit proportionnel à leur capacité à contribuer. Je suis porteur dans la loi de programmation en santé que j'ai déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale au mois de décembre dernier, d'une proposition sur un plafonnement du reste à charge pour que le reste à charge en santé soit proportionnel aux revenus. Quand on a la chance d'avoir des revenus importants, c'est pas très important de ne pas être remboursé intégralement de la consultation chez son médecin généraliste. Par contre, si je suis une maman toute seule avec 3 enfants, j'ai évidemment besoin d'avoir un remboursement intégral. Et donc, proportionner les remboursements de l'assurance maladie au niveau des revenus, c'est une idée qui permettrait de faire un effort substantiel. Les experts considèrent que c'est une économie de l'ordre de 5 milliards d'euros pour l'assurance maladie, mais qui serait juste. C'est-à-dire que quand j'ai un peu plus de moyens, je suis un peu moins bien remboursé. Et quand j'ai pas beaucoup de moyens, je suis mieux remboursé. On ne s'en sortira que par des mesures de justice sociale et d'équité sociale. Ce qui rendrait toute réforme totalement inacceptable et inentendable pour nos concitoyens, c'est si c'est toujours la même classe de population qui avait le sentiment de porter les efforts pour tous les autres.
Garantir absolument ces 3% de déficit en moins de 3 ans, c'est possible ou c'est une douce utopie selon vous ?
C'est un objectif. Il faut le garder comme un objectif, il faut se le fixer comme ambitieux. On sait que les économies à réaliser pour l'atteindre, qui devraient être de l'ordre de 50 milliards d'euros, sont quasi impossibles à réaliser. Et donc, il va falloir jongler entre des économies importantes, peut-être des recettes qui vont devoir être remises en chantier également. En tout cas, il faut se fixer cet objectif-là, parce que si on ne se fixe pas un cap un peu ambitieux en matière budgétaire, on va continuer la dérive dans laquelle nous sommes et qui nous amène à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Voilà. On va refermer ce volet sur l'actualité économique et sociale de notre pays et sur les annonces du Premier ministre. Parlons de santé maintenant. Tournons-nous vers votre dernier ouvrage, 25 mesures pour lutter contre le cancer. Alors, il y a différentes propositions sur le dépistage, le parcours de prise en charge et le soutien du personnel et professionnel de santé également. Déjà, Jean-Carl Grelier, quels sont les différents axes que vous abordez dans cet ouvrage ?
Alors, pourquoi un ouvrage sur le cancer ? Parce que on a, depuis le plan cancer que le président Chirac avait mis en place et la création de l'Institut National du Cancer, fait des progrès considérables sur la prise en charge de la maladie et notamment sur sa prise en charge globale. À considérer que le traitement du cancer, ce ne sont pas que des soins chirurgicaux et médicaux, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Ça peut être de l'esthétique, ça peut être de la psychologie, ça peut être tout l'accompagnement et une prise en charge globale des patients. Le sentiment qui est le mien et qui est partagé avec ceux qui m'ont accompagné dans cette démarche, notamment la Fédération Unicancer, mais aussi le professeur Fabrice Denis qui exerce son art au centre de cancérologie du Mans, c'est de dire qu'il faut qu'on aille plus vite et plus loin. Plus vite notamment dans les dépistages. Il s'écoule aujourd'hui un temps qui est beaucoup trop long entre le moment où sur une radio, on détecte par exemple un nodule sur le sein d'une femme qui pourrait être un nodule cancéreux et le moment où on va poser le diagnostic. Et il s'écoule encore un temps qui est beaucoup trop long entre le diagnostic et le début de la prise en charge médicale et chirurgicale. Et donc il faut qu'on apprenne à réduire tous ces temps-là. Ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on reforme les soignants et qu'on les resensibilise à tous les premiers symptômes qui peuvent parfois apparaître très discrètement et qui peuvent être le signe avant-coureur d'un cancer installé.
Vous dites que vous expliquez que le dépistage devrait rentrer dans un registre national des cancers. Vous dites que nos voisins européens le font. Dans quelle intention ?
Alors l'idée, c'est que les professionnels de santé aient des données partagées. Sur, par exemple, la matière cardiologique, en cardiologie, on a toutes ces données qui sont enregistrées. C'est-à-dire qu'on sait à un instant T combien de patients en France sont atteints de tel type de pathologie, quels sont les traitements. On a besoin, pour faire avancer la recherche aussi, d'avoir quelque part une espèce de registre exhaustif, alors évidemment anonyme, mais qui recense toutes les maladies cancéreuses déclarées, les traitements qui sont mis en place, le suivi qui a été proposé aux patients, les temps de rémission et éventuellement le moment de la guérison. Ça permet d'avoir là aussi, vous voyez, des statistiques qui vont nourrir la recherche et qui vont permettre d'améliorer considérablement la prise en charge. Et puis ça permet aussi d'aller faire du repérage épidémiologique. On découvrira peut-être avec ce registre qu'il y a des régions ou du fait de historiquement de telle ou telle activité professionnelle, je pense au secteur minier notamment, on avait des cancers de tel type et de telle nature qui se développaient dans des proportions plus importantes qu'ailleurs.
Pour le diagnostic, vous proposez de déployer des hôpitaux de jour spécialisés dans le diagnostic en un jour pour le cancer, c'est-à-dire que
pour le cancer du sein
par exemple, qui est assez facilement diagnostiquable et qui est un des cancers dont on guérit le mieux en France. La patiente arrive le matin, elle a tous ses rendez-vous le soir même, elle sait comment ça va se passer. Comment c'est possible concrètement de mettre en place ces mesures en Sarthe.
Notamment. Alors, c'est en place déjà dans des centres de lutte contre le cancer en région parisienne. Ça nécessite effectivement d'avoir une organisation très particulière qui est mise en place par ces centres et d'avoir un protocole de prise en charge particulier. L'idée, c'est que à un moment donné, une femme détecte sur l'un de ses seins une boule qui l'inquiète un peu. Elle se rend chez son médecin généraliste. Immédiatement, le médecin généraliste l'envoie au centre de cancer, de cancérologie. Et là, elle va être prise en charge dans la globalité. Toute la matinée va être consacrée à confirmer le diagnostic. Donc, elle va passer des examens radiographiques, éventuellement un scanner. Elle va faire des examens biologiques. Et si le diagnostic est confirmé, une équipe pluridisciplinaire se réunit en début d'après-midi midi. Et avant qu'elle ne quitte le centre, on lui a fixé tout le calendrier de sa prise en charge, médicale, chirurgicale, chimiothérapique s'il y a besoin, et tous les rendez-vous sont pris. L'idée, c'est qu'une fois encore, entre le moment où le diagnostic est posé et le moment où on subit le premier soin contre le cancer, il y a très 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 peu de délais. Aujourd'hui, les délais sur ce type de cancer sont beaucoup trop longs. Or, vous le disiez très justement, le cancer du sein est l'un des cancers qui se soigne le mieux, à la condition d'être pris à temps et à la condition qu'on ne le laisse pas traîner pendant la prise en charge, ce qui parfois dure très longtemps. Vous savez, aujourd'hui, dans un département comme le nôtre, si vous êtes confronté à ça et qu'on vous dit « Tiens, il faut prendre rendez-vous pour aller passer un scanner », eh bien parfois, il faut 4 mois pour obtenir le rendez-vous. Eh bien, pendant 4 mois, la maladie continue de se développer. Ce sont tous ces délais-là qui continuent d'être préjudiciables à la maladie cancéreuse. Alors, je ne dis pas que c'est simple à mettre en place, je dis que ça s'est fait, qu'il y a des expérimentations qui montrent que c'est efficace et qu'avec une bonne organisation, avec des protocoles de prise en charge repensés et révisés, on doit pouvoir permettre de compresser autant qu'il est possible ces délais. Chaque jour passé en matière cancéreuse conditionne les chances de guérison et les chances de succès du traitement du patient.
Parce que la question pour notre département aujourd'hui, qui est un désert médical, c'est le personnel. Comment recruter davantage et faire venir des professionnels de santé pour diminuer ce délai de prise en charge? On parle de 60 médecins pour 100 000 habitants en Sarthe.
Mais alors, vous avez 1000 fois raison. On a, en particulier dans notre département, à gérer cette particularité. On a malgré tout, dans notre malheur, une chance inouïe, c'est d'avoir un centre de cancérologie qui, d'abord aujourd'hui, a cette particularité qui est unique en France, puisque c'est le seul centre de cancérologie public et privé, puisque c'est l'association de l'hôpital du Mans et d'une clinique privée, la clinique Victor Hugo en l'occurrence, qui ont mis des moyens en commun. On a du matériel d'excellence et notamment ce CyberKnife qui permet d'aller cibler très précisément en radiothérapie les cellules cancéreuses pour ne pas abîmer les tissus autour et éviter les effets secondaires d'un traitement radiothérapique. Et donc on a là, je pense, quelques arguments qui sont utiles pour qu'au moins, au niveau de la cancérologie, on soit attractif pour des professionnels qui ont envie de s'investir dans ce sujet. Mais voilà, on a fait le lien avec le budget et les difficultés budgétaires. La santé dépend aussi des moyens qui sont mis à sa disposition et ce sont sur ces moyens-là notamment qu'il faut qu'on se préserve de coups de rabot trop sévères dans les temps qui viennent, parce que la santé ne mérite pas ça.
Un sujet que vous abordez notamment, les soins pédiatriques, les cancers chez les enfants. On estime qu'il y a 2500 enfants environ chaque année qui sont diagnostiqués d'un cancer. Qu'est-ce que vous proposez dans ce livre?
Je propose 2 choses. La première, c'est une prise en charge globale de l'ensemble de la cellule familiale. Parce que quand un cancer touche un enfant, c'est toute la famille qui est affectée. C'est les parents, évidemment, mais c'est aussi la fratrie. Je propose une prise en charge où, y compris les frères et sœurs, soient à un moment donné aidés, accompagnés psychologiquement. Parce que quand un enfant est malade d'un cancer dans une famille, très logiquement, toute l'attention se reporte sur cet enfant malade. Et parfois, c'est très douloureux pour les frères et sœurs. Je propose aussi que on considère que le parcours d'un enfant atteint d'un cancer est un parcours tout au long de la vie, parce que les traitements très lourds que l'enfant va subir lui laisseront parfois des séquelles qu'il va devoir subir tout au long de son existence. Et il faut pas qu'on puisse lui dire le jour où on considère qu'il est guéri, écoute, maintenant c'est terminé, le système de santé ne s'intéresse plus à toi. Vous voyez, donc on a ces prises en charge là qui doivent être, et ça me fait rebondir sur un des sujets qu'on évoque dans les 25 mesures que vous alliez peut-être aborder, c'est celui des aidants. Moi, je suis très soucieux de la situation des aidants. Quand on est le proche d'un malade atteint d'un cancer aujourd'hui, c'est une charge extrêmement lourde en temps, en énergie. C'est une charge mentale, psychologique extrêmement lourde. Parce que tout le monde est toujours attentionné au malade, et c'est bien normal. Parfois, on est un petit peu moins attentionné à celui qui l'accompagne dans toutes les démarches du quotidien. Et donc là, je crois, là aussi, qu'on a des efforts particuliers à faire. Vous voyez, si demain, un conjoint est atteint d'un cancer, il ne faut pas que celui qui va l'accompagner dans ses séances de chimiothérapie pour le soutenir moralement soit pénalisé dans sa vie professionnelle en parallèle. Voilà des dispositifs qu'on peut mettre en place et qui me paraissent essentiels à une bonne prise en charge de la maladie.
Justement, sur sa vie professionnelle, qu'est-ce que vous proposez pour les aidants et mettre un peu la lumière sur eux, dont on parle peut-être moins en général?
L'idéal, ce serait qu'un jour, il y ait enfin un vrai statut des aidants, avec une vraie prise en charge des aidants, et qu'on puisse s'ennuyer à sa carrière professionnelle, la mettre entre parenthèses, le temps d'accompagner un proche proche qui est malade. Alors, vous avez bien mesuré qu'on n'en est pas complètement là aujourd'hui, mais je pense que sensibiliser les employeurs à cette dimension-là, c'est un élément fort. On a pour ça quelque chose qui a déjà beaucoup changé, c'est le tabou sur la maladie cancéreuse est tombé. Il y a 20 ans de ça, c'était pas bien vu de dire aux yeux du monde entier qu'on avait un cancer, on le gardait en général pour soi et pour la cellule familiale. Aujourd'hui, c'est plus honteux et en face du malade, il y a souvent beaucoup d'empathie et beaucoup de compréhension. Et donc, il faut aller au bout de cette empathie et de cette compréhension pour que, y compris les proches, puissent être aidés, soutenus et accompagnés. Accompagner ceux qui accompagnent, c'est parfois essentiel aussi.
Vous aviez publié à l'automne dernier un précédent ouvrage pour proposer 25 mesures sur les urgences. Vous deviez être reçu par le ministre de la Santé Aurélien Rousseau, mais il a démissionné entre-temps après l'adoption de la loi immigration, remplacé par Catherine Vautrin. Où en est-on aujourd'hui ?
Ben, j'ai un peu le sentiment, pour être très honnête, alors moi je n'ai toujours pas été reçu, j'ai pourtant formulé des demandes d'être reçu par les deux ministres qui sont aujourd'hui en charge de la santé. Vous savez, ce qui est très péjoratif au monde de la santé, 7 ministres en 7 ans. Rien que cet énoncé-là laisse à mesurer que sur un chantier qui est un chantier de longue haleine, la refonte pleine et entière de notre système de santé, qui va demander du temps et une énergie de tous les ressorts. Sincèrement, on ne peut plus aujourd'hui se permettre ces mouvements-là.
Vous regrettez qu'une ministre puisse additionner 3 ministères aujourd'hui, le travail, la santé et la solidarité ?
Je pense que la santé, ne serait-ce que par respect pour les professionnels de santé, aurait mérité de rester un ministère plein. C'est très compliqué pour les professionnels de santé qui se sentent souvent un peu les abandonnés du système, de leur dire, aujourd'hui, votre ministère n'est plus qu'un ministère délégué. C'est-à-dire une sorte de sous-catégorie ministérielle.
Avec Frédéric Valletoux.
Avec Frédéric Valletoux à sa tête, dont je ne conteste pas les compétences, évidemment, mais qui va devoir faire ses preuves, mais qui va surtout devoir les faire très rapidement, parce que le système de santé français ne peut pas attendre.
Et en fin de compte, s'il y avait une seule de vos mesures qui devait être retenue dans un projet de loi, c'est-à-dire prioritaire, selon vous, dans cette lutte contre le cancer, laquelle serait-elle ?
Je crois très sincèrement que ce serait celle qui concerne les aidants. Ce que je disais tout à l'heure, accompagner les accompagnants, sincèrement, c'est aujourd'hui une vraie urgence. Je crois que qui n'est jamais passé par ce type de situation ne mesure pas bien ce qu'est le poids pour un conjoint, pour un parent, pour un enfant, de porter la maladie d'un de ses proches. Et donc, aider les aidants, les accompagner, les encadrer, les seconder autant qu'ils le peuvent, leur permettre de respirer, de souffler de temps à autre, ça me paraît absolument essentiel. Et je pense que vous savez... Si vous êtes malade demain et que votre conjoint vous prend en charge, à un moment donné, le malade lui-même, s'il sent son conjoint ne pas souffrir de la maladie, s'en sentira mieux. Et donc, psychologiquement, c'est à la fois le malade, le patient lui-même, mais aussi son accompagnant qui peut aller mieux. Et sincèrement, si cet épisode douloureux dans la vie de nos concitoyens qu'est le cancer peut être vécu moins douloureusement, on aura quand même fait un sacré progrès.
Un autre sujet, Jean-Carl Grolier, ce jeudi 28 mars, c'est la journée mondiale de l'endométriose. Donc c'est une maladie du quotidien qui affecte une femme sur 10 en France. Elle se caractérise par de fortes douleurs, par exemple, pendant les périodes de règles, mais pas seulement, puisqu'il y a beaucoup d'autres symptômes physiques. Et le 27 mars, les députés ont refusé et voté contre une proposition de loi en commission des affaires sociales, donc votre commission. C'était un texte proposé par l'écologiste Sébastien Patavi qui proposait justement d'accorder 13 jours d'arrêt de travail par an aux femmes victimes de règles douloureuses. 16 voix contre 16. Vous étiez absent, vous regrettez ?
Je regrette pas d'avoir été absent parce que je suis rapporteur d'une mission d'évaluation et que pendant la réunion de la commission, j'auditionnais un certain nombre de gens sur des questions de santé dans le cadre de la mission qui m'a été confiée par la commission des affaires sociales. Mais si j'avais été en commission, j'aurais voté pour ce texte.
Donc votre vote aurait pu faire basculer cette
Peut-être
décision.
Que mon vote aurait fait basculer les choses. Mais sincèrement, voilà des sujets sur lesquels la politique n'a pas de place. Je veux plus entendre que parce que c'est une maladie des femmes, elle n'a pas été adoptée, que si ça avait été une maladie d'hommes, sans doute on l'aurait adopté. Je pense que les femmes dans notre pays méritent beaucoup plus de considération que ça. Et donc sincèrement, soyons attentifs à tous ces sujets-là. Mettons de la politique là où il y a lieu d'en mettre. Et quand il n'y a pas lieu, comme c'était le cas sur un texte de cette nature-là, je pense qu'on se serait collectivement grandi à aller dans cette direction-là.
Vous reprochez à vos collègues d'avoir voté contre parce que c'était un texte de la majorité de la
Je reproche rien à personne parce que je ne sais pas dans quelles circonstances exactes les choses se sont passées. Je regrette simplement le résultat, c'est-à-dire que un texte dont j'avais pris connaissance et qui me semblait aller plutôt dans la bonne direction et qui était un texte sur lequel un consensus pouvait se dégager en faveur de ces milliers de femmes qui sont affectées par l'endométriose, très sincèrement, je pense que ça n'est pas un très beau signal que l'Assemblée nationale a envoyé au travers de ce vote.
Parce que les tests salivaires pour détecter cette maladie vont être remboursés d'ici l'année prochaine. Justement, ça n'est pas suffisant si on prend en compte l'exemple de nos voisins espagnols. On est beaucoup trop en retard sur ces questions en France.
Je pense, oui, qu'on est en retard sur ces questions-là. Il y a quelques grandes questions comme ça de société. J'entendais tout à l'heure sur votre antenne tous ces messages qui repassent sur le sida, la prévention du sida. Voilà quelques grands sujets qu'il ne faut surtout pas oublier. C'est important de parler du cancer. Vous m'avez fait la gentillesse de m'inviter pour parler de ce que j'ai écrit dessus. Mais n'oublions pas non plus la lutte contre le VIH, les moyens de se protéger. N'oublions pas non plus toutes ces maladies qui, très sincèrement, aujourd'hui peuvent être sur lesquels on peut en tout cas améliorer sensiblement la situation de nos concitoyens et de nos concitoyennes. C'est ça aussi, vous savez, la santé des Français devrait être peut-être le premier des sujets politiques, parce qu'on est tous, à un moment donné dans notre vie, sujet du monde de la santé ou objet de santé. Et à ce titre-là, c'est peut-être le lieu où la solidarité nationale doit s'exprimer avec le plus de force.
Merci Jean-Carl Grelet d'avoir répondu à notre
invitation. Merci à vous de votre invitation.
Député Renaissance pour la 5e circonscription de la Sarthe et membre de la Commission des affaires sociales.
L'invité de la rédaction avec Robin Hulin.